C'est l'heure maintenant d'entendre, et on la remercie d'être présente parmi nous aujourd'hui, Madame la Contrôleure Générale des lieux de privation et de liberté, Adeline Hazan. Alors, Madame Hazan, évidemment, comme pour les autres, il y a des contraintes en termes horaires. 25 minutes. Et je vous fais un petit carton jaune à 5 minutes de la fin.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à la DSM de m'avoir convié à intervenir devant vous et surtout pour ce à quoi j'ai assisté depuis ce matin, mais je crois que c'était la même chose hier. Bravo pour la qualité et la richesse des débats qui ont eu lieu. Alors, je pense que vous connaissez ici le contrôle général des lieux de privation de liberté, donc je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est, simplement préciser pour que les choses soient claires. Que nous intervenons dans tous les établissements où quelqu'un est privé de liberté, que ce soit pour quelques heures dans un commissariat pour une garde à vue ou dans une prison pour 30 ans. Donc pour les établissements de santé mentale, nous sommes compétents, mais nous ne sommes compétents que pour les soins sans consentement, puisqu'il s'agit d'une privation de liberté décidée par une autorité administrative. Donc ça ne concerne que les soins sans consentement. Dans cette intervention, moi, j'ai choisi, bien sûr, c'était, je crois, ce qui était attendu, de vous parler essentiellement, ça a déjà été beaucoup évoqué ce matin, de la problématique de l'isolement et de la contention, qui est, à mon sens, une restriction de la liberté de circulation et des droits fondamentaux à l'intérieur d'une restriction de liberté qui est déjà, évidemment, le placement sous contrainte. Le contrôle général des lieux de privation de liberté, depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2008, s'est toujours beaucoup préoccupé de cette question. Et je dois dire que depuis le début de mon mandat, c'est-à-dire depuis juillet 2014, j'ai tenu à faire de la psychiatrie et donc de cette question une priorité parce qu'il m'a semblé que cette question n'était globalement pas suffisamment traité dans l'opinion publique, que ça ne faisait pas partie suffisamment du débat et que je voulais m'inscrire dans ce débat. Alors, nous visitons évidemment des établissements, nous en visitons au total 150 par an. En ce qui concerne les établissements hospitaliers, nous avions visité, avant que je prenne mon mandat, à peu près 30 ou 40 établissements hospitaliers de santé mentale. J'ai accéléré le processus de façon à ce que, je l'espère en tout cas, à la fin de mon mandat, c'est-à-dire en 2020, puisque je suis nommée pour 6 ans, nous aurons visité l'ensemble des établissements psychiatriques. Alors nous nous sommes intéressés évidemment de très près à ces mesures de contention et d'isolement, parce que depuis justement la création du CGLPL, nous invoquions le fait que ces mesures, comme je l'ai dit, très attentatoires aux droits fondamentaux, ne devaient être prononcées justement qu'en dernier recours et avec un certain nombre de conditions, c'est-à-dire la traçabilité, les motifs précisés, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'on a pu constater, ça a été dit évidemment ce matin également, c'est que depuis environ 25-30 ans, on a assisté malheureusement à une augmentation permanente de ces pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous, soit pour rédiger un rapport dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais aussi lors de nos visites, nous interrogeons tous les professionnels pour savoir, mais à votre avis, pourquoi est-ce que ces mesures ont augmenté depuis 25 ans ? Et je dois dire qu'on est totalement frustré parce qu'on a X ou Y réponses qui sont très variables, mais aucune qui véritablement n'est convaincante. Alors ça va de, certains nous disent les traitements sont allégés, donc il y a plus d'agitation. D'autres nous parlent de la baisse des effectifs, de la baisse de moyens en général. En fait, on n'arrive pas à savoir pourquoi ces mesures ont augmenté. Moi, je dirais aussi qu'elles sont certainement toutes cumulées, ces mesures, mais à mon sens, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez là-dessus, à mon sens, ça vient aussi, bien sûr, du développement depuis un certain nombre d'années d'un climat sécuritaire qui se trouve à la fois sur les questions de délinquance, sur les questions, toutes les questions finalement de la vie quotidienne, et qui fait que le patient, me semble-t-il, est de moins en moins, par rapport à ce qui se passait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, est de moins en moins considéré comme une personne à soigner, mais souvent comme une personne dangereuse. Et ça correspond malheureusement un peu à une attente de l'opinion publique sur laquelle se sont calés certaines également un certain nombre de préconisations. Alors, si les motifs de l'augmentation de ces hospitalisations sous contrainte et aussi des mesures d'isolement et de contention ne sont pas connus, ce qui fait défaut aussi, c'est la connaissance statistique, justement, parce qu'on sait grosso modo que ça a augmenté. On n'arrive pas à savoir précisément le nombre de ces placements à l'isolement ou en contention. Et là, je crois qu'elle est encore dans la salle, je salue les travaux de Magali Koldofi, qui est à peu près une des seules à faire des recherches sur ce sujet. Cette difficulté statistique, elle est également renforcée par le fait que on met dans des services fermés des patients qui sont admis avec leur consentement. Nous, on l'a dénoncé depuis 2012 en disant que ça n'était pas normal et qu'il ne devait pas y avoir dans ces services des personnes qui, dans les services libres, des personnes qui étaient dans les services fermés, des personnes qui étaient hospitalisées avec leur consentement. Alors, je sais, en visitant les établissements, que théoriquement, on fait signer aux patients un engagement, un accord, mais même, d'abord, on ne le fait pas toujours signer, et même avec cet accord, je trouve que ça n'est pas normal. Alors, bref, l'absence de données fiables, l'inexistence de toute forme de traçabilité, l'hétérogénéité des pratiques d'une région à l'autre, on l'a vu, d'un établissement à l'autre et parfois même d'un étage à l'autre, est un vrai problème. Et je dirais même, il a été évoqué tout à l'heure ce problème, mais moi j'ai envie de dire qu'il est tellement important, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise à mon arrivée, il est tellement important qu'à mon sens, il pose le problème de l'égalité des patients dans l'accès aux soins. Parce qu'en fonction de l'hospitalisation dans tel ou tel service, les pratiques ne seront absolument pas identiques. Nous avons effectué un contrôle de Sainte-Anne il y a à peu près un an et demi. Le rapport n'est pas encore public, il le sera bientôt. Et c'est vrai qu'on a tout à fait constaté ce que disait le docteur Marcel, c'est que les pratiques sont extrêmement différentes d'un service à l'autre, alors que les patients sont grosso modo les mêmes, les pathologies sont les mêmes. Donc ça interroge énormément. Un mot sur les textes en vigueur, mais vous les connaissez, mais on en a parlé beaucoup tout à l'heure. Moi, je crois que la loi du 5 juillet 2011, elle a été une grande avancée, même si au début, elle a été assez mal perçue, je me souviens, et par les médecins et par les magistrats, d'ailleurs, qui n'étaient pas du tout d'accord, souvenez-vous. Maintenant, tout le monde convient que c'est une avancée. Le problème de cette loi et de celle qui a suivi du 27 septembre 2013, qui a réduit le délai d'intervention du GLD de 15 à 12 jours, c'est qu'elle est restée complètement muette sur les modalités de contrainte comme l'isolement et la contention potentiellement pratiquées. Ce qui fait que finalement, jusqu'à la loi du 26 janvier 2016, dont on a beaucoup parlé ce matin, les textes régissant ces procédures étaient extrêmement flous et surtout, ils n'étaient pas législatifs. Il y avait seulement quelques textes réglementaires, mais qui parlaient de l'intérêt thérapeutique du patient, mais qui n'étaient pas absolument suffisants. Ça veut dire que, en fait, on peut dire que jusqu'au vote de la loi, on pouvait isoler et contenir un patient sans aucun contrôle, ni a priori, ni a posteriori, et quand même, contrairement à un certain nombre de pays voisins européens. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté, nous, contrôle général des lieux de privation de liberté, qu'est-ce qu'on constate, toujours, d'ailleurs, souvent, dans ces établissements? On constate d'abord que les pratiques d'isolement et de contention sont très fréquentes, et surtout, qu'elles ne paraissent pas toujours guidées par l'état clinique du patient. Quand on interroge, là aussi, les médecins, on nous répond... C'est l'intérêt thérapeutique. Ça ne veut rien dire, l'intérêt thérapeutique. Et surtout, sachant qu'aucune étude n'a prouvé jusqu'alors que ces mesures présentaient un intérêt thérapeutique. Je l'ai dit récemment dans un autre colloque. Moi, ce qui m'a toujours surprise, c'est que pour mettre un médicament sur le marché, il y a X études de faisabilité. Mais pour décider de contenir ou d'isoler quelqu'un, il n'y a aucune étude qui dit que ça a un intérêt thérapeutique. C'est quand même un problème. Alors nous constatons aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en aparté, nous constatons aussi quelque chose qui nous choque énormément, c'est que dans la presque totalité des établissements, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, on place systématiquement, quand il y a un détenu qui est hospitalisé, il est placé systématiquement à l'isolement pendant tout le séjour, et ce, même si la personne n'est pas dangereuse. Donc, nous, ça nous paraît inacceptable. Autant, Si la personne est signalée comme détenue particulièrement signalée ou même dangereuse, il y a une classification qui se fait à la prison, c'est normal. Quand le détenu n'est absolument pas signalé comme étant une personne dangereuse, c'est anormal. Les prescriptions sont quasiment toujours anticipées par une prescription si besoin, ce qui n'est évidemment pas normal. Et puis un mot, on n'en a pas tellement parlé. Il y a un droit à la sécurité du patient, moi, qui ne me semble pas suffisamment respecté. Les chambres d'isolement, c'est ce qu'on constate tous les jours lors de nos contrôles, très souvent ne sont pas dépourvues de sonnettes d'appel. Les patients sont enfermés et n'ont pas d'autre moyen d'appeler les soignants que de taper à la porte ou de crier. On observe aussi souvent des manquements graves à l'intimité et à la dignité. Des caméras dans les chambres, ça ne nous semble pas normal. Et puis, une pratique contre laquelle moi je m'élève depuis ma nomination, c'est le port du pyjama. Pour moi, c'est contraire à la dignité. Alors, une fois de plus, ce n'est pas contraire à la dignité quand ça n'est pas systématique. Il peut y avoir des personnes dont les médecins pensent que c'est bien de les mettre en pyjama. Pour X ou Y raison, je ne vais pas revenir dessus, vous les connaissez. Mais en faire quelque chose de systématique n'est absolument pas normal. Par ailleurs, l'installation des chambres d'isolement, je ne sais pas comment c'est dans votre établissement, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, on voit souvent encore des chambres d'isolement où il n'y a pas de toilette et où il y a juste un seau hygiénique. Ça paraît, en 2016, bientôt 2017, absolument inacceptable. Alors, s'appuyant sur ces constats et ces recommandations que nous faisons de rapport de visite en rapport de visite, j'ai décidé de publier un rapport thématique le 25 mai 2016 sur l'isolement et la contention dans les établissements de santé mentale. Ce n'était pas un hasard que je choisisse ce premier thème pour une nouvelle collection en fait, de rapports thématiques. C'est parce que, justement, j'étais très inquiète sur ces questions. Dans ce rapport, le contrôle général des lieux de privation de liberté émet un certain nombre de recommandations que, grosso modo, d'ailleurs, on retrouve, à quelques exceptions près, j'y viendrai, dans la loi du 26 janvier 2016. Tout d'abord, cette mise à l'isolement et contention doit impérativement constituer une mesure de dernier recours qui doit être mise en œuvre lorsque tous les autres moyens ont été employés et ont échoué. Cette loi conditionne la possibilité d'une mesure d'isolement ou de contention à l'existence d'un examen médical psychiatrique effectif de la personne et recommande qu'aucune décision de contrainte physique ne puisse être prise par anticipation ou avec l'indication si besoin. Il rappelle que la décision doit être motivée afin de justifier du caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure et demande que les informations sur l'état clinique du patient soient vraiment explicitées. Il demande que la décision prise précise justement les mesures qui ont été employées vainement pour l'empêcher. Il demande aussi, bien sûr, qu'elle soit la plus courte possible, qu'elle ne puisse pas dépasser le temps de la crise, qu'en toute hypothèse, elle ne puisse pas être prolongée sans une nouvelle décision également motivée, mais qu'au total, l'isolement ne puisse pas dépasser 24 heures et la contention 12 heures. Il demande aussi que l'isolement et la contention, nous demandons aussi que l'isolement et la contention soient prescrits dans la chambre du malade, parce que pour nous, ça induit une banalisation et bien sûr une absence de traçabilité. On demande aussi donc que le port du pyjama et le retrait des effets personnels ne soient pas systématiques. Et on rappelle bien sûr l'existence du registre. Ça va, c'est bon? Je suis dans les temps?
Oui, il vous reste 10 minutes. Oui.
D'accord. On recommande également que les dispositifs de vidéosurveillance en chambre d'isolement soient interdits, car portant atteinte à la dignité et à l'intimité. Et on recommande surtout que la présence soignante soit adaptée justement à l'état clinique de la personne. Et on demande évidemment que dans toute chambre, il y ait un dispositif d'appel auquel il doit être répondu immédiatement. Alors la loi du 26 janvier 2016, elle a constitué à l'évidence une avancée très importante parce que pour la première fois, un cadre légal a posé un certain nombre de limites dans ces pratiques d'isolement et de contention. Puisque je ne vais pas vous en refaire la lecture, hein, vous la connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, mais donc le dernier recours, un dommage imminent ou immédiat, c'est ce que nous demandions, un registre, le nom du psychiatre, un rapport, le registre qui doit être présenté, c'est important, ça ne se passe pas comme ça toujours, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués, et aux parlementaires. Ce qui est très positif aussi, c'est que la loi impose à l'établissement un rapport annuel qui rend compte justement de ces pratiques de mise à l'isolement et de contention et qui doit être transmis à la commission des usagers. Ça me paraît tout à fait important. Et c'est donc dans la dernière, dans la droite ligne des recommandations du CGLPL. En revanche, je trouve inquiétant, même si ça va peut-être bouger dans les semaines qui viennent, mais que cette loi ayant été promulguée le 26 janvier 2016, il n'existe toujours pas de circulaire d'application de cette loi. J'ai cru comprendre que ça avait mis beaucoup, beaucoup de temps, que tout le monde n'était pas d'accord. Il a même été, je crois, question d'abandonner cette circulaire. Elle va probablement, dans les semaines qui viennent, quand même être publiée. Et même si, on l'a dit, cette loi est d'application immédiate, on pouvait décider qu'il n'y avait pas besoin d'une circulaire. Mais en l'occurrence, le ministère a d'abord décidé qu'il allait en faire une. Je pense que c'est nécessaire quand même, parce que ça va être un tel changement quand même de paradigme, un tel changement dans les pratiques des hôpitaux, que c'est quand même important de le faire. Ce que je remarque aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas dans tous les établissements, heureusement, mais les dernières visites que nous avons effectuées nous ont quand même montré que les établissements attendent la circulaire et pour certains ne se sont absolument pas mis encore, alors qu'on est au mois de novembre, en ordre de bataille pour justement respecter les préconisations de la loi. Par contre, je trouve que le manque important de cette loi, et je l'ai dit à la ministre, c'est que aucune structure n'a été prévue par le législateur pour observer qualitativement et quantitativement, le recours aux pratiques d'isolement et de contention sur le territoire national. Or, moi, je pense que, a priori, la volonté quand même des pouvoirs publics et du législateur, c'est par l'encadrement de ces pratiques par la loi, c'était de faire baisser le nombre de ces pratiques. Or, si on veut faire baisser le nombre de ces pratiques, il faut bien qu'à un niveau national, on puisse comparer que dans telle ou telle région, c'est très différent, alors que là, les maladies sont à peu près les mêmes, que dans tel ou tel département, c'est très différent, pour pouvoir s'emparer de cette vision nationale et pouvoir donner ensuite des instructions. On ne peut pas faire baisser ces mesures s'il n'y a pas une instance d'évaluation. Certains ont proposé un observatoire national de la contention et l'isolement. Moi, observatoire ou pas, j'avoue que ça m'est un peu indifférent, mais vraiment, j'insiste pour qu'il y ait une instance nationale d'évaluation. Ça me paraît absolument indispensable, sinon on n'aura pas abouti à une baisse de ces pratiques qui est quand même le but de cette loi. Un dernier mot pour conclure, et je crois que je suis dans les temps, c'est de dire que ce qu'on dit dans ce rapport, ce qu'on dit dans nos rapports de visite, ne sont en aucunement, je le précise parce qu'il y a eu un peu des incompréhensions, disons, sur le sujet, ça n'est pas une mise en cause des pratiques des professionnels. C'est simplement que nous, autorités indépendantes, nous sommes chargés de vérifier que les droits fondamentaux des personnes placées sous contrainte, sans leur consentement plutôt, sont bien respectés. Donc que s'il y a des dysfonctionnements, on doit les repérer. Vous avez dû entendre parler d'une recommandation en urgence que j'ai rédigée à l'intention du ministre de la Santé concernant un établissement à Bourg-en-Bresse, où là on avait constaté des choses absolument aberrantes sur les droits. C'est notre mission, donc on la continuera évidemment avec impartialité et objectivité dans nos rapports de visite. Je vous y renvoie si ça vous intéresse, ils sont publiés sur le site du CGLPL. On repère aussi les bonnes pratiques des établissements. Donc c'est avec cet objectif que le contrôle général veillera à l'avenir à ce que ces recommandations et les dispositions de la loi du 26 janvier 2016 soient respectées. Mais je crois qu'il faut aller plus loin et justement non seulement vérifier qu'elles sont respectées, mais aussi être tous, vous, nous et puis d'autres instances, force de proposition pour faire en sorte que les lacunes de cette loi puissent être, dans un avenir le plus proche possible, puissent être corrigées. Je vous remercie.
Madame Mazan, je vous invite à à vous installer à côté de moi. Merci pour toutes ces informations et ces précisions que vous avez pu nous apporter.